c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. C'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Aussi, je vous souhaite de bien en profiter, de faire plein de choses agréables. Nous sommes dans une période pleine de vie et de lumière et c'est souvent la force et la fertilité qui sont au cœur des rituels. Allez, vous passez une très très bonne journée, bien sûr, je vous dis bonjour.
Une carte postale de la campagne. Regarde le ciel comme elle est belle, cette carte postale de Michel. Avec un mot pour toi, pour moi, pour nous. Des mots sur des choux, partout des coucous. Une bonne nouvelle. Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle me donne le moral ? Un cadeau de Noël avec deux ailes pour deux personnes, Isabelle. Une bonne nouvelle pour toi, pour moi, pour nous. C'est chouette, les hiboux, girouettes, coucou. De toute façon, c'est dans l'ordre des choses de penser à autre chose. Quelque part en France, si quelque part la chance ne passait par cette chance, voudrais-tu comme moi la saisir pour une fois? Une étincelle dans tes yeux. N'importe laquelle, Montre-moi le ciel comme il est mieux sous le soleil de Mathieu. Comme il est mieux pour toi, pour moi, pour nous. Du bleu et c'est tout, le reste plus du tout. Des vœux tout à coup, un peu, beaucoup. De toute façon, c'est dans l'ordre des choses de penser à autre chose. Si quelque part en France, si quelque part ma chance ne passait pas.
Il s'appelle Mathieu Bogarde, c'est comme dirait Patrick Sébastien, les bonnes nouvelles, c'est vrai que ça fait du bien. Alors pour notre rubrique Saltan sur la planète, Jean-Louis Ouattet nous fera un bilan de la fête des mares qui a eu lieu du 3 au 11 juin. Les mares, écosystème unique et irremplaçable. Ensuite, avec Christine Defort de la SPA d'Artois, nous parlerons alimentation pour nos chiens et chats. Et puis la semaine dernière, nous avons vu que beaucoup de nos amis à quatre pattes devenaient trop gros, voire obèses. Cela est dû bien souvent à un manque d'exercice, mais aussi à une alimentation trop riche en graisse ou en sucre. Et le problème est le même que pour nous humains. Nous verrons ça avec Christine. Après cette rubrique animalière, place à Monique Marichet, présidente du club Soroptimiste Béthune, qui nous précisera un nouveau concept, qui nous présentera un nouveau concept, la boîte à livres, à ouvrir absolument. Et puis, musique à présent, musique, car cette semaine, elle donnera à nouveau l'occasion d'une liesse populaire avec la fête de la musique qui connaît un succès croissant au fil des années. C'est en 2011 que cette fête s'est complètement internationalisée. Elle existe depuis 1983 en France et depuis, elle est reprise dans 110 pays sur les 5 continents.
Donnez-moi du son ou je défaille. Sans le son, tout me fait défaut. J'ai besoin de pagaille, que ça gueule, que ça braille, que la rue est le verbe haut. Je dis que du chant, du coq au cou, de klaxon, tout ce qui claque, qui éclate et qui sonne. Hey. Le clapotis de l'eau, le toy-boy d'une gare, ou le vent dans les roseaux, et le jumbo qui démarre. C'est de la musique, c'est de la musique, yeah, ooh, yeah, ooh. C'est de la musique, c'est de la musique. Montez-moi le son où je dégaine, pour du son je suis prêt au pire. Chant de baleine, moi j'échange sans peine le silence contre des soupirs. Et je dis que là, on a qui lève la foule, ou les rollés pour un camon qui déboule. C'est de la musique, c'est de la musique, c'est de la musique, yeah! Le oui de la mariée, les petits oiseaux dans la campagne, et le papy éclaté qui fait péter le champagne. C'est de la musique, c'est de la musique, yeah, oh, yeah, oh. C'est de la musique, c'est de la musique. Sans le son, je réponds plus de rien. J'aime
ça bastonne, j'aime quand ça cartonne. Cri du cœur ou bordel humain. Joli que du chant, du coco chant, du cygne. C'est de la vie qui persiste et signe. Et c'est de la musique, c'est de la musique, c'est de la musique, yeah. À part les bruits de bottes et les idées qui marchent au pas, c'est une explosion de notes, un concerto sans coda. C'est de la musique, c'est de la musique, yeah, yeah. C'est de la musique, c'est de la musique. Oh, 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 oh. C'est de la musique, c'est de la musique, yeah, ooh, yeah, ooh. C'est de la musique, c'est de la musique. C'est de la musique, c'est de la musique, yeah. Ooh, yeah. Ooh, c'est de la musique, c'est de la musique.
La musique, oui, la musique, comme disait Michel Fugain, la musique c'est un cadeau de la vie, ça existe pour consoler, pour récompenser, ça aide à vivre.
Radio Plus, la radio plaisir.
Alors notre enquête dans l'air du temps, à la question « Les hommes mettent-ils plus de temps à être matures que les femmes ?» Eh bien, ces dernières semblent tout à fait d'accord sur la réponse. Lors d'un sondage mené par la chaîne de télévision américaine, toutes les femmes britanniques interrogées et un homme sur quatre ont répondu « oui ». Et donc, après leur avoir posé plusieurs questions sur leur façon de voir les choses, eh bien, il est apparu que les hommes seraient matures à l'âge de 43 ans et les femmes 32. Et 46% des femmes ont déjà eu l'impression d'être la mère de leur mari. Ces messieurs seraient-ils atteints du syndrome de Peter Pan ? Un quart des femmes interrogées ont répondu qu'elles se sentaient seules dans le couple à prendre les décisions importantes. Et lorsqu'on leur a demandé quels étaient les autres signes d'immaturité des hommes, les volontaires ont cité jouer aux jeux vidéo, conduire trop vite, s'amuser à rire de leur propre flatulence, être incapable de cuisiner autre chose que des repas simples. Alors messieurs, allez, on se ressaisit, n'est-ce pas ?
Il regarde la voie lactée, les yeux tournés vers le firmament. Devant le ciel, immensité, les hommes sont toujours des enfants. Ils rêvent de partir voyager, ils rêvent de s'en aller loin. Les hommes sont toujours des enfants. Des enfants qui se déguisent en grandes personnes, qui font semblant d'oublier. Mais ils ont besoin d'être aimés. Sans amour, on ne vit pas longtemps. Lorsqu'ils se sentent perdus, paumés, les hommes sont toujours des enfants. Regardez-les rire ou pleurer, regardez-les pleurer vraiment. Quand tous les masques sont tombés, sont toujours des enfants. Des enfants qui se déguisent en grandes personnes, qui font semblant d'oublier. Mais quel que soit le nom papa, maman. Dans leur voix, ils ont des baisers. Les hommes sont toujours des enfants. Ne chérir que la liberté, ne vivre que l'instant présent. Lorsqu'ils retrouvent leur âme cachée, les hommes sont toujours des enfants.
Sont toujours des enfants, constatation chantée par Michel Jonas. Alors pour notre rubrique Saltant sur la planète, on retrouve Jean-Louis Ouetté, président de l'Étrême Nature.
Saltant sur la planète, oh le drôle de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors, tous les ans, la première semaine de juin, la fête des mares propose de nombreux événements sur l'ensemble du territoire national afin d'aborder la complexité de l'écosystème mare, de faire découvrir la richesse faunistique et floristique de ces milieux, de transmettre les pratiques de bonne gestion et les initiatives mises en place pour préserver ces milieux. Jean-Louis Ouetté, bonjour. Jean-Louis Ouetté, bonjour.
Problème de liaison.
Ah, Jean-Louis Ouetté, excusez-moi, on ne vous a pas entendu, je vous ai dit bonjour.
Et je redis bonjour, Martine.
Voilà. Non, on ne vous a pas entendu, il y avait des petites touches qui ont été touchées justement ici, qui ont été manipulées ici en radio, et puis voilà, qui n'ont pas été remises à leur place.
Oh là.
Donc,
là,
je disais, les mares font partie des zones humides dont la préservation est votre cheval de bataille, hein, et par exemple, l'Étrême Nature, en partenariat avec l'association Réagir, est à l'origine de la restauration de certaines d'entre elles, comme à Mont-Bernanchon. Et puis, je me souviens que l'Étrême Nature a été impliquée dans un projet de création et de curage de mares. Et ça, c'était en 2014. Et déjà, vous nous aviez expliqué la nécessité de préserver ce qu'on pourrait appeler ces grosses flaques d'eau. Alors, rapidement, et pour ceux qui restent à convaincre, Jean-Louis, pouvez-vous nous rappeler leur intérêt écologique à ces mares?
Oui, d'abord, surtout, ne parlons pas de curage de mares, hein, parce que... C'est vrai que le curage, c'est souvent violent. On parlera de restauration de mares, de restauration douce. Et donc, oui, effectivement, on a été impliqué dans un projet au niveau avec le syndicat mixte Pays Cœur de Flandre pour justement restaurer un certain nombre de mares. Alors, la contribution des mares à la biodiversité d'un territoire, elle peut être qualifiée de remarquable. Les mares renferment sur un pourcentage finalement insignifiant de l'espace une grande proportion d'espèces végétales ou animales protégées. Et ces espèces ne sont pas forcément toujours liées à la partie aquatique elle-même, mais aux biotopes environnement qui forment des îlots, des foyers de biodiversité. Et donc la valeur écologique des mares est importante, et aussi l'importance des réseaux de mares. Les mares isolées vont servir de refuge pour des espèces, mais la notion de réseau est importante. Donc les mares vont abriter une faune et une flore qui sont très très riches, c'est des refuges, c'est des lieux de reproduction, d'alimentation, alors notamment pour de nombreuses espèces, hein, que ce soit pour les batraciens qui sont menacés à l'échelle nationale, mais aussi pour les insectes, je pense particulier aux libellules. Donc l'existence de mares est cruciale pour certaines espèces. Et puis ces réseaux sont importants aussi, les réseaux de mares, pour d'autres mammifères, pour des oiseaux, hein, puisque c'est aussi des haltes migratoires. Et puis les réseaux de mares participent au maintien de ce qu'on appelle les continuités écologiques, hein, les corridors, on en a déjà beaucoup parlé, qui sont indispensables à la faune et à la flore. Donc c'est important en termes de biodiversité, mais c'est aussi important en termes de fonction régulatrice de l'eau, hein. Écrétage des crues, stockage de l'eau, et de manière stratégique, bah, les mares ont une grande importance justement dans la régulation des inondations. Et je pense que par ce volet-là, on avance, on fait prendre conscience justement de l'importance des mares dans la lutte contre les inondations. Elles jouent aussi un rôle épurateur important en éliminant des polluants diffus des eaux de surface, hein, que ce soit le phosphore, l'azote, les métaux lourds. Il y a certaines plantes qui sont capables de capter et de dégrader des manières polluantes. Et puis, sont souvent les mares qui sont situées en tête de bassins versants, bah, vont former des systèmes très efficaces d'épuration naturelle des eaux. Donc, on voit toute l'importance des mares.
Alors, justement, je parlais tout à l'heure de grosses flaques d'eau, mais je suppose qu'il y a des mares de toutes les dimensions.
Ah, tout à fait, hein. La taille, la profondeur, l'endroit où elle se trouve, l'origine de l'eau, tout ça, c'est des critères différents qui font que chaque mare possède ses propres caractéristiques et qu'aucun de ses trous d'eau ne ressemble à un autre, hein. C'est ce qui en fait un milieu intéressant, mais aussi très fragile où la vie foisonne. Il faut savoir qu'en France, il y a plus d'un million de mares, hein. Donc ce nombre, à lui seul, montre l'importance de ces écosystèmes qui sont dispersés dans tout le paysage. Chaque commune du territoire en héberge potentiellement plusieurs. Donc c'est l'importance locale qui vient s'ajouter à celle collective et régionale des réseaux de mares.
Alors, justement, les mares font donc partie de notre patrimoine naturel. Y a-t-il un recensement qui a été fait, Jean-Louis ?
Bah, outre la connaissance écologique d'une mare, il est, oui, impératif de savoir localiser ces mares. Or, justement, c'est des milieux souvent de petite taille et la connaissance de leur répartition n'est vraiment pas une chose aisée. Donc, il y a des démarches d'inventaire qui sont menées par les conservatoires d'espaces naturels. Alors, c'est une première approche indispensable, mais elle est laborieuse. L'inventaire des mares, c'est justement un des points difficiles. Donc, et puis surtout qu'il est indispensable justement de considérer les écosystèmes de mares à travers la notion de réseau. Donc les conservatoires d'espaces naturels concentrent majoritairement leurs actions sur les réseaux de mares en prenant en compte tout ce qui est distance de dispersion, résistance des habitats, densité des mares sur une superficie donnée. Donc c'est ce qu'on appelle une démarche de type rame verte et bleue, bon, qui malheureusement on voit en région Hauts-de-France est le parent pauvre actuellement. Et donc on peut avoir des craintes justement sur ces réseaux de mares. Donc c'est l'approche de réseau fonctionnel qui est privilégiée. Et donc l'inventaire des mares, ça doit être aussi un inventaire participatif parce que c'est vrai que à eux seuls, les conservatoires des espaces naturels ne peuvent pas justement inventorier toutes les mares d'un territoire.
Tout à fait. Quand vous employez le terme de participatif, hein, on rappelle que c'est parce que bon, chacun d'entre nous peut avoir, comment dire, peut participer à ces inventaires.
Dans le cadre ce qu'on fait tout dans les sciences participatives, on fait les inventaires de coccinelles, on fait les inventaires d'amphibiens, mais on fait aussi un recensement des mares, et c'est important de connaître toutes ces petites mares, parce que beaucoup sont méconnues, beaucoup sont abandonnées. Et c'est important de bien les localiser, les connaître.
Alors justement, vous dites, bon, Jean-Louis, si une semaine entière est consacrée aux mares chaque année, c'est que quelque part, elles sont menacées finalement.
Ah bah oui, tout à fait. Il faut savoir que 30 à 40% des mares ont disparu depuis 1950 en France. Et leur effectif est 10 fois moins élevé qu'au début du siècle dernier. Donc, et puis il y a une grande majorité des mares qui restent, qui est abandonnée. Savoir que les mares avaient un rôle économique, hein, c'était à la fois des abreuvoirs, c'était utile pour l'arrosage. Maintenant, ces notions ont disparu, et donc c'est ce qui veut veut dire que les mares, beaucoup de mares sont abandonnées et ont besoin de restauration.
Ben, pourtant, bon, comme elles possèdent une biodiversité exceptionnelle, on pourrait supposer que dorénavant les mares sont prises en considération dans les projets d'aménagement communaux.
Oui, mais il y a un gros travail de sensibilisation à poursuivre. On sait très bien que malheureusement la biodiversité n'est pas toujours la priorité, que ça passe bien souvent après des projets d'aménagement du territoire, et que donc on n'hésite pas pour certains projets à reboucher des mares et puis à drainer des territoires, ce qui fait que c'est vrai que c'est malheureusement le parent pauvre. Heureusement, c'est vrai que les problèmes d'inondation récurrents font réfléchir et montrent toute l'importance justement de ces réseaux de mares dans la lutte contre les inondations. Hein, ça fait partie des zones humides, hein, c'est des zones humides prioritaires. Et donc je pense que c'est un volet, un levier qui est important. Alors il y a un gros travail de sensibilisation à poursuivre. Hein, il faut comprendre les mares, partager les savoirs, montrer leur rôle fondamental. Et je crois que bon, c'est vrai que dans les projets d'aménagement du territoire, ça commence à être pris en considération.
Tout à fait. Alors très vite, Jean-Louis, très très vite. Oui. Dites-moi, bon là, on rentre dans une période de sécheresse. Elles vont devenir quoi ces mares et toute cette biodiversité?
Certaines mares ne sont alimentées que par le ruissellement de l'eau de pluie, d'autres par la nappe phréatique, d'autres par le biais de forage. Donc c'est vrai qu'avec la sécheresse, les mares vont souffrir. Il y en a certaines qui vont s'assécher et malheureusement, bon, on peut avoir de la perte au niveau notamment des amphibiens. Mais bon, les amphibiens savent se protéger et aller trouver d'autres milieux de substitution à l'abri.
Alors justement, je vous propose lors d'une prochaine émission de parler, parce que là nous sommes un peu pris par le temps, de parler un petit peu de ces amphibiens, de savoir comment les protéger, surtout en cas de sécheresse, pourquoi pas.
Tout à fait. Hein. Donc.
En tout cas, c'est une heureuse initiative que cette semaine consacrée aux mares et pendant laquelle les événements organisés ont permis par exemple d'aborder la complexité de l'écosystème mare, de découvrir sa richesse faunistique et floristique, de transmettre les pratiques de bonne gestion et de mettre en évidence les initiatives mises en place pour préserver ces milieux. Je répète, sachant que celles-ci ont été malmenées, alors vous l'avez dit, 90% d'entre elles ont disparu au cours du siècle dernier, soit parce qu'elles ont été remblayées, soit parce que se sont comblés naturellement par manque d'entretien. Pourtant, une mare, c'est fantastique. Et puis, on peut même en faire une petite chez soi.
Ah bah oui, je pense que c'est possible, à condition de bien respecter certaines règles, notamment au niveau des berges, hein, des berges en pente douce, des profondeurs diversifiées. Et donc, c'est vrai qu'on peut, en réalisant une mare dans son jardin, recréer un habitat, une niche écologique qui sera de première importance pour tout un cortège de faune et puis de flore.
Tout à fait. Alors à vos mares préparées, merci Jean-Louis, nous vous disons à la semaine prochaine et puis un de ces jours nous parlerons justement des amphibiens sur cette antenne.
Tout à fait. Bonne semaine.
Merci, bonne semaine à vous Jean-Louis, au revoir.
L'on est bonne sur la terre que pour les fleurs d'un parterre, les oignons et les poireaux, les navets et les citrouilles. Pourquoi boirions-nous de l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
Sommes-nous des grenouilles dans l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
Et pourquoi quoi?
Et pourquoi quoi?
Et pourquoi quoi?
Quoi 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 quoi?
Pourquoi boirions-nous de l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
Fâche d'honneur de tisane, médecin, tu n'es qu'un âne, tu mériterais bourreau, que chacun te chante ta pouille. Pourquoi boirions-nous de l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
Sommes-nous des grenouilles dans l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
Et pourquoi quoi?
Et pourquoi quoi?
Et pourquoi quoi?
Quoi 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 quoi?
Pourquoi boirions-nous de l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
Dieu des mers, ton vaste empire n'a pour nous rien qu'on admire. Il vaut mieux un noir caveau que le trône où tu patouilles. Pourquoi boirions-nous de l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
Sommes-nous des grenouilles dans l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
Et pourquoi quoi?
Et pourquoi quoi?
Et pourquoi quoi?
Quoi 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 quoi?
Pourquoi boirions-nous de l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
Jeune mal à faire de l'âge, pour augmenter ton courage, tu ne boiras pas dans un seau, mais au tonneau qui gargouille. Pourquoi boirions-nous de l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
Sommes-nous des grenouilles dans l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
Et pourquoi quoi?
Et pourquoi quoi?
Et pourquoi quoi? Pourquoi boirions-nous de l'eau?
Sommes-nous des grenouilles?
C'est le groupe Chanson Plus Bifluoré. Je me souviens de cette histoire de grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Eh bien, l'enchaînement est tout trouvé pour accueillir à présent Christine Defort de la SPA d'Artois qui va nous donner quelques conseils pour bien alimenter notre animal et justement que notre animal ne devienne pas aussi gros qu'un bœuf.
Paul Léoteau disait « Les gens qui ne s'intéressent pas aux bêtes ne savent pas quelle merveille de bonté, de fidélité, d'attachement, d'intelligence curieuse on trouve en elles. C'est la plus charmante compagnie quand on sait s'y prendre et je parle de toutes les bêtes. »
Et justement, cette semaine, nous compléterons la rubrique de la dernière fois dans laquelle nous constations une prise de poids chez nos animaux de compagnie. Christine, bonjour.
Bonjour Martine et bonjour à tous.
Alors, vous nous aviez donné quelques conseils à la fois pour lui faire garder la ligne, mais aussi pour lui faire perdre un petit peu son embonpoint. Et bien évidemment, il faut un peu d'exercice, mais aussi une alimentation suffisante, mais pas en grosse, en trop grosse quantité, et surtout une alimentation saine, on va dire. Alors, d'abord les chiens, Christine, qu'est-ce qu'une alimentation saine pour eux?
Eh bien, c'est une alimentation équilibrée qui répond à ses besoins quotidiens, bien sûr, en fonction de sa taille et de son activité physique. Et ça, eh bien, vous pouvez en discuter avec votre vétérinaire qui vous donnera les conseils adaptés à votre animal. Les aliments industriels sont souvent décriés, mais c'est le moyen aussi, Martine, le plus simple de nourrir son chien, son animal, parce que, eh bien, ils contiennent tous les besoins de votre animal. Il faut savoir aussi que leur composition est hyper réglementée en Europe et que les marques doivent respecter des contraintes colossales quant aux ingrédients utilisés. Donc, les propriétaires doivent aussi garder à l'esprit que les croquettes ou les conserves ne contiennent pas n'importe quoi. Bien sûr, vous pouvez préparer leur alimentation vous-même en respectant toujours l'équilibre alimentaire. Un petit peu comme nous, Martine.
Alors, castré ou non, notre matou vivra mieux et plus longtemps si son alimentation est adaptée à son âge et à son activité, Christine.
Exactement. Il faut savoir aussi qu'un chat d'appartement pèse adulte, d'appartement autre, pèse entre 3,5 et 5 kilos et ne doit pas manger plus de 200 grammes de nourriture par jour et répartit en deux repas. C'est entre 4 et 10 ans que l'on observera la plus grande surcharge pondérale. Hein. Donc la santé de votre chat passe d'abord bien sûr par le contenu de sa gamelle. Hein. Et bien sûr, si vous adaptez son alimentation à son âge et à son activité, castré ou non, il vivra bien sûr plus longtemps.
Et puis, justement, à propos de notre chat, il y a des aliments qu'il ne faut pas donner trop souvent. Par exemple, la viande rouge, le foie, même le thon.
Tout à fait. Le chat, faut pas perdre de vue que c'est un carnivore et il a chassé pour se nourrir de tous les temps. Donc la première règle de base, c'est qu'il faut savoir que votre chat a besoin a un besoin élevé de protéines, une fois et demie à deux fois plus que les chiens ou les humains. Et s'il n'a pas son compte, eh bien cela peut entraîner chez lui une carence en acides aminés. Donc une alimentation équilibrée et variée de viande rouge, volaille, poisson, produits laitiers. Le chat n'a qu'un faible besoin de glucides, bien entendu. Donc il y a aussi des aliments interdits comme les blancs d'œufs, les os de volaille ou de lapin, bien sûr, les viandes grasses, les pommes de terre, les restes de table, les boîtes pour chiens et le mou. Hein, il faut aussi servir régulièrement à votre chat le même type d'aliment. Il va aussi avoir des ennuis de santé. Hein, ainsi, trop de viande rouge, comme vous le disiez, Martine, est nocif pour les reins. Quant au foie, eh bien, malgré qu'ils en sont friands, cela peut il faut lui en donner une fois par semaine, sous peine d'hypervitamine A et de maladie des os. Voilà. Donc, voyez, il faut vraiment le lait aussi. Hein, le lait, contrairement à ce qu'on peut dire, le lait n'est pas non plus bien toléré par les chats.
Alors, et puis vous allez nous redire qu'en aucun cas, et la précision s'avère être nécessaire, car par expérience, je peux vous dire que les gens posent encore la question, ils sont encore pour beaucoup ignorants du fait, vous allez nous redire qu'il ne faut jamais donner de la nourriture pour chien à un chat, et surtout de la nourriture pour chat à un chien.
Effectivement, le taux de protéines, si vous donnez une boîte pour chien à votre chat, le taux de protéines y est beaucoup trop faible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et vice-versa, votre chien risque d'avoir des ennuis rénaux s'il se nourrit exclusivement d'aliments pour chat qui sont trop protéinés.
Alors, depuis quelque temps, Christine, le bio est entré dans la vie de nos animaux.
Oui, alors en optant pour un mode de vie bio pour votre animal de compagnie, bien sûr, vous lui faites du bien et vous faites un geste pour l'environnement, puisque vous encouragez le développement de l'agriculture biologique et donc l'utilisation des produits naturels qui sont plus respectueux de l'environnement. Il faut savoir que l'offre est en évolution constante. Les animaleries bio proposent une large variété d'aliments pour nourrir correctement votre animal, que ce soit les croquettes, les pâtés ou les friandises, tout est disponible en version bio. Ils sont donc sans colorants, sans pesticides, sans conservateurs, sans hormones, sans antibiotiques, sans OGM et sans additifs chimiques. Néanmoins, ils sont riches en nutriments pour proposer une alimentation saine à l'animal. Donc l'alimentation bio, à mon avis, eh bien, est une bonne chose pour l'animal comme pour nous.
Alors la semaine prochaine, Christine, nous verrons ensemble pour clôturer ce chapitre les différents problèmes dans les comportements alimentaires, hein, boulimie, vomissement, refus de nourriture, etc., etc. Donc je vous dis merci, Christine, et je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Martine. Bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Chez la lune, un beau jour, si j'en voudrais une bouboule. Des gars comme lui, y'en a pas plein, c'est ce qu'on appelle un vrai copain. C'est cool. Il est fidèle comme un vieux chien, du cœur il en a plein les mains. Il donne. Mais y'a des jours où l'amitié, comme une enclume, ça peut peser. Plaire, il m'étouffe, mon copain patapouf, il est lourd, il embine, il est mou, en plus il comprend rien, mais bon, c'est mon copain, il supporte pas les sobriquets, mon petit patou, mon gros biquet, gras double. C'est pas possible de plaisanter, il prend la mouche instantanée, il boude. Il a toujours envie de manger, quand il a fini de s'empiffrer, il ronfle. Il sait pas comment s'occuper, il passe mon temps à s'ennuyer. Plaire, il m'étouffe, mon copain patapouf, il est lourd, il embine, il est mou, en plus il comprend rien, mais bon, c'est mon copain. Quand il commence à être sérieux et qu'il me regarde avec ses yeux de veau, je voudrais lui dire de s'en aller, mais si ça se trouve il va manquer le gros. Il irait me décrocher la lune un beau jour, si j'en voudrais une bouboule. Des gars comme lui y en a pas plein, c'est ce qu'on appelle en plus, il comprend rien.
copain.
Richard Gottener est en poids de mire aujourd'hui, une heureuse initiative. Et oui, le principe est né aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons et se répand en France depuis quelques années. Faire circuler des livres dans la nature afin qu'ils soient lus et partagés par d'autres personnes. Monique Marichet, bonjour.
Bonjour Martine, merci de me recevoir sur les ondes de Radio Plus.
Alors, vous êtes présidente du club Soroptimiste Béthune, un club service exclusivement féminin qui œuvre pour améliorer la vie des femmes dans le monde. Et Jacqueline Panier, une de vos membres, nous a déjà présenté cette association. Mais aujourd'hui, Monique, vous êtes là pour nous parler de la boîte à livres. Et vous êtes bien placée pour le faire, puisque vous-même ayant trouvé le concept très intéressant avec votre club, vous en avez installé une à Béthune. Alors dites-nous, Monique, ça se présente comment, une boîte à livres ?
Une boîte à livres, on peut dire aussi une boîte à lire, se présente comme une boîte métallique d'une taille légèrement supérieure à celle d'une boîte aux lettres normalisée. Donc c'est un cube de 35 cm de côté environ. Elle est de couleur bleue et elle porte sur ses différentes faces des autocollants explicatifs qui nous ont été fournis par l'Union française Soroptimiste, qui est à l'origine du projet. Donc ces autocollants sont aux couleurs Soroptimiste, qui sont le jaune et le bleu. Il est notamment écrit « Nous partageons nos livres, c'est gratuit, servez-vous » ou encore « Je prends un livre, je dépose un livre » mais aussi « Les Soroptimistes s'investissent dans l'éducation ».
Alors justement, cette boîte à livres, quel en est le principe ?
Alors le principe consiste à prendre gratuitement dans la boîte un livre, ce peut être un roman pour adultes, un livre pour enfants ou une revue, et si possible, à le remettre après lecture ou à remettre un autre ouvrage en échange. Chacun est libre, hein, il n'y a pas de contrôle à ce sujet. De cette façon, ceux qui lisent n'accumulent pas inutilement les livres et les revues chez eux, et d'autre part, et surtout, on ne jette pas les livres. Mmh. La culture circule, s'échange et se transmet à tous.
Tout à fait. Alors justement, quelques clubs services comme le vôtre l'ont compris et ont déjà proposé à plusieurs municipalités l'installation de ces boîtes à livres dans leurs communes. Alors, dans quel objectif ? Vous avez dit que l'objectif n'est pas seulement de faire lire ou d'échanger. Il y a d'autres objectifs.
Les objectifs, voilà, sont multiples. Hein. Le livre ouvre en fait les lecteurs et les lectrices à la connaissance et à l'indépendance économique. C'est également un moyen de communication, de compréhension entre les hommes et les femmes. L'installation des boîtes à livres permet donc d'une part de mettre à disposition de la population gratuitement des ouvrages. Les livres et les revues trouvent ainsi une seconde vie. Cela permet également d'échanger les livres entre lecteurs, de transmettre le plaisir de tenir un livre entre les mains, de donner le goût de la lecture à ceux qui ne l'ont pas encore, de faire connaître aux lecteurs des ouvrages dont le sujet diffère de leur centre d'intérêt habituel. Le projet s'inscrit donc dans une démarche de développement durable, puisqu'il allie des aspects culturels, économiques, solidaires et écologiques.
Mmh. Et justement, vous avez dit que ça peut redonner le goût de la lecture à certaines personnes. Vous croyez vraiment ?
Oui, tout à fait. Dans certains quartiers, les habitants ne lisent pas ou ne lisent plus parce que les livres coûtent cher. Mmh. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur budget. Ces boîtes facilitent donc l'accès ou le retour de tous à la lecture, petits et grands.
Alors, cela peut-il, par exemple, Monique, au sein d'un quartier, recréer du lien social ?
Ah oui, bien sûr. Les habitants du quartier vont se rencontrer autour de la boîte à livres. Ils vont pouvoir parler de leurs impressions à propos d'une lecture. Cela créera un supplément de lien social.
Alors, vous avez, avec les membres du club Soroptimiste, installé une boîte dans le quartier Quatorives de Béthune. Et d'ailleurs, l'inauguration s'est faite le mercredi 17 mai. Alors, je suppose que vous aviez des gens avec vous, des gens autour de vous, des gens du quartier. Comment a été accueillie cette boîte ?
Elle a été merveilleusement bien accueillie. Il suffit de voir le nombre de personnes qui ont assisté à l'inauguration, les réactions unanimement positives que notre club a recueillies sur les réseaux sociaux et puis aussi le démarrage de l'utilisation de la boîte.
Mmh. Alors, depuis Monique Marichet, avez-vous eu des retours quant à son fonctionnement et gardez-vous un œil dessus ou un contrôle, je dirais? Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de contrôle, mais bon.
Il n'y a pas de contrôle sur le fait que les gens remettent un livre en échange d'un livre qu'ils ont pris. Donc, il y a des personnes qui vont prendre un livre et ne vont pas le rendre. Là, il n'y a pas de contrôle. Mais en revanche, cette première boîte, après autorisation de la municipalité, a été scellée dans le mur extérieur de l'école Pasteur à Béthune. C'est son directeur, Monsieur Favril, qui avait vu la boîte, qui était présentée au public lors du salon Talent de Femmes organisé par notre club en novembre dernier. Il s'était montré immédiatement intéressé. Et c'est lui, à présent, qui vérifie de façon régulière qu'elle est en bon état, qu'elle est suffisamment garnie, et c'est lui qui remet lui-même des livres et des revues s'il en manque.
Donc, pas de problème de dégradation?
Non, je suis sûre que chacun fera preuve de civisme et de responsabilité, et c'est pour le bien de tous.
Oui, bon. On peut y croire, hein. On va y espérer.
Monsieur oui. Favril m'a dit qu'il était possible que des jeunes, par exemple, s'amusent avec les livres, les prennent ou éventuellement fassent de petites dégradations. Mais il faut absolument éduquer les personnes qui sont la cible de la population concernée. Donc c'est une façon aussi d'éduquer les gens, de leur dire, vous voyez, même si vous avez mal utilisé cette boîte, nous allons la regarnir jusqu'à ce que le but soit atteint.
Alors, justement, est-ce que quelque part agir pour la lecture s'apparente un petit peu à vaincre l'illettrisme? Parce que bon, quand on ne sait pas lire, on ne sait pas lire et on n'est donc pas forcément attiré par ce support qu'est le livre.
Oui, alors le projet s'inscrit dans le programme Optimiste Éducation, alphabétisation et lutte contre l'illettrisme. Les boîtes à livres sont destinées à venir en complément d'autres actions, comme l'aide à la lecture et à l'écriture, que nous essayons également de proposer en accord avec les structures municipales, les structures scolaires existantes, à ceux et celles qui en ont besoin.
Alors, je suppose que votre club Sourd-Optimiste envisage de multiplier ses boîtes?
Oui, nous avons une commission qui est composée de 5 sourds optimistes et qui gère ce projet au sein du club. La commission est en cours de discussion avec les responsables d'autres lieux, comme par exemple la maison privée qui est gérée par des bénévoles pour accueillir les familles des détenus de la maison d'arrêt, ou encore un lieu qui reçoit des femmes en difficulté. Alors comme je ne peux pas vous en parler trop avant, parce que les contacts ne sont pas encore finalisés.
Tout à fait.
Mais nous avons de bonnes chances de réussir de plusieurs côtés une fois que les autorisations seront obtenues. Et de son côté, la municipalité envisage également d'en installer, mais sur le domaine public.
Alors, dites-moi Monique Marichet, justement, vous les trouvez où ces boîtes et puis les livres, vous les trouvez où?
Alors, les boîtes sont des boîtes qui ont été référencées par l'Union française du sourd optimiste international. Nous les achetons dans la grande distribution, puis nous les peignons en bleu, nous les décorons grâce aux autocollants sourd optimiste, et c'est le bénéfice que nous retirons du salon annuel Talents de Femmes qui nous permet, entre autres actions, d'acheter ces boîtes. Quant aux livres, eh bien, en général, ils proviennent de la générosité de chacun et de chacune.
Donc, on peut, à la limite, vous donner des livres pour que vous puissiez en faire profiter les autres, bien sûr.
Tout à fait, oui.
Et justement, finalement, Monique, cela peut susciter des envies de faire la même chose à titre privé, hein. Par exemple, mettre une boîte à livres devant chez soi, pourquoi pas? C'est peut-être envisageable.
Oui, nous avons déjà reçu une demande de conseil d'une béthunoise à ce sujet. Elle avait depuis un moment l'idée de le faire chez elle et elle nous a demandé comment nous procédions pour le faire. Donc nous espérons faire des émules.
Tout à fait, ça serait pas mal. Chacun a sa petite boîte aux lettres et sa petite boîte à livres.
Voilà.
En tout cas, Monique Marichet, merci. Peut-être à bientôt sur cette même antenne, car ce Optimiste génère beaucoup d'actions. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous en parler sur Radio Plus. Et puis bientôt, nous reparlerons de votre salon qui est le point culminant, on va dire, pour votre association, votre salon Talents de Femmes.
Voilà, ben merci beaucoup Martine de m'avoir permis de mettre en lumière ce projet parce qu'il tient à cœur aux membres du Club Soroptimiste de Béthune. Et puis, j'incite déjà les auditeurs à venir nombreux les 18 et 19 novembre à la salle Olof Palme de Béthune hein, pour le prochain salon Talents de Femmes, effectivement. Nous pourrons en reparler ultérieurement. Merci encore Martine.
À bientôt, je vous dis donc à très très bientôt pour justement parler de ce salon. À très bien Monique Marichet. À très bientôt Monique Marichet. Merci à vous.
Merci, au revoir Martine.
Au revoir.
Avant-hier bêtement, j'ai relu le grand môme. J'ai traqué mon enfance au fil des pages jaunes. Dans un coin de grenier, j'ai voulu sans vergogne et sans billet refaire mon voyage en Sologne. Dans un coin de grenier, j'ai voulu sans vergogne et sans billet refaire mon voyage en Sologne. Mais j'ai bien trop lu. J'ai lu de livres pour les grands. Adieu, que je suis déçu, déçu par mes livres d'enfants. Hier matin, je m'embarque pour un pèlerinage vers mes 15 ans blottis dans leur petit village. Le cœur battant le long d'un sentier d'Aridelle, j'attends Buffalo Bill sur un coin de margelle. Le cœur battant le long d'un sentier d'Aridelle, j'attends Buffalo Bill sur un coin de margelle. Mais j'ai bien trop vu. De palais formidable. Adieu, que je suis déçu, déçu par mes châteaux de sable. Aujourd'hui je te parle comme à une étrangère, mon aimée d'autrefois, mamie, mon écolière. Et te disant bonjour, je voudrais tant et tant te dire que notre amour a encore 18 ans. Et te disant bonjour, je voudrais tant et tant te dire que notre amour a encore 18 ans. Mais j'ai bien trop couru, couru les filles de passage. Adieu, que je suis déçu, déçu par les dames trop sages. Demain je blanchirai à l'ombre d'un sapin, de routine en regret, de regrets en refrain. Et j'essaierai encore une dernière fois de refaire à rebours mon long chemin de croix. Et j'essaierai encore une dernière fois de refaire à rebours mon long chemin de croix. Mais je n'aurais jamais pu, non jamais pu, apprivoiser le temps. Adieu, que je suis déçu, déçu, que je suis décevant.
C'était bien sûr Henri Tachant. Et bien justement, l'heure est venue de refermer ce grand livre de l'air du temps. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même antenne sur le 104.3. Et d'ici là, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et puis si vous avez envie de continuer cette matinée en écoutant de la bonne musique et des bonnes chansons, eh bien n'hésitez pas à rester avec moi pour Kaléidoscope. C'est tout de suite après la petite page de publicité.